Bonsoir à tous, nous sommes mardi, il est 21h et c'est la saison 4 du Dojo Bar.
Dojo Bar!
Bonsoir! Bonsoir à toutes et à tous, voilà. Bonsoir Cyrard.
Bonsoir tout le monde.
Et bonsoir à notre pléthore d'invités. Voilà.
C'est... Bonsoir Kaliken.
Non, il est pas là. Non, il est pas là.
Comment Kaliken. Ça, il est pas là?
Mais il est pas là. C'est vrai, voilà, Kaliken, il est pas. Il est pas. Il est pas. Oui, je sais, ça fait bizarre de se dire, enfin, un dojo bar sans Kaliken, ça ressemble un peu à rien, mais c'est comme ça, il est pas là. Alors c'est pareil, bonsoir Antix, et ben non il est pas là non plus. Donc c'est vrai que c'est bien, alors malheureusement Méduse, Oscar, enfin Lascar, qui devait être parmi nous, un petit souci technique, donc Méduse est en train d'essayer de résoudre le petit souci technique de Lascar. Du coup moi je meuble un petit peu hein, pendant ce temps-là, parce que je sais pas ce qu'ils foutent. Et donc on va en profiter, avant de démarrer le sommaire de cette émission, en profiter pour parler des nouveautés de cette saison 4. Voilà, wow. Donc on a parlé des nouveautés, c'était bien. Maintenant, si je disais, il n'y a pas de nouveautés, je fais ce que je peux. Il n'y a pas de véritable nouveauté.
Si, il n'y a pas Kaliken.
Oui, par rapport à la saison 3, c'est une petite nouveauté. Ah, deuxième nouveauté, il n'y a pas Antix. Voilà, donc l'homme Reverso n'est pas parmi nous, double champion du monde de Traductotron, je vous rappelle quand même...
Voilà, oh, j'en profite on a pour qu'à passer... en faire un tout de suite, comme ça, on est sûr qu'il gagnera pas.
Le problème, c'est que ça se prépare. Donc, j'en profite pour passer un petit message de service pour le grand vainqueur de notre dernier concours Traductotron, qui a gagné un Super Smash Bros 3DS, qui est précommandé, donc ça, il n'y a pas de souci, mais j'ai pas son adresse de livraison. Donc, s'il pouvait se remanifester pour me donner son adresse, ce serait vraiment très bien.
Sinon tu me l'envoies, c'est très bien.
Mais non, mais voilà, on a dit qu'on faisait gagner au monsieur. Donc je l'ai peut-être, j'ai même plus le nom en tête. Donc c'est, voilà, le gagnant, le grand gagnant se manifeste. Essayez pas de triche, on vérifiera quand même.
Alors je vais raconter une petite histoire pendant que
Méduse et Oscar sont... Fais-toi plaisir, parce que là tu as l'antenne pour toi tout seul.
Parce que à propos du Traductotron, nous avions fait quelques lots. Donc il y a eu quelques vainqueurs, et un jour Méduse a demandé, tiens, combien faut mettre de timbres pour envoyer un jeu? Donc je lui ai dit, si tu mets des timbres, ça n'arrivera jamais. Et ce n'est jamais arrivé. Donc nous avons un de nos lecteurs qui est Dany, qui n'a finalement jamais reçu son jeu. Et donc on lui a proposé un jeu de remplacement, et il l'a refusé, il était déjà content d'avoir pu jouer avec nous. Donc... Ah, je crois qu'Oscar arrive à parler. J'ai vu sa bouche bouger.
Voilà. Alors, l'émission va peut-être pouvoir démarrer dans le vent. Bonsoir, bonsoir Lascar, le maître des chiffres qui est parmi nous.
J'ai ramené Oscar.
Voilà, et bonsoir Méduse, ce sale poulpe, cette espèce de traître qui met des timbres sur des enveloppes de jeu. Voilà.
Salut à tous.
Il est revenu pile à temps et il a entendu ce que
voilà,
je disais.
Donc on a légèrement meublé en votre absence. Maintenant, cette émission peut reprendre son cours normal. Donc nous
genre
allons...
il y a un cours à l'émission, un cours normal à l'émission.
En général, il y a un cours. Il y a...
C'est une blague.
Voilà. Au départ, il y a un cours normal à l'émission. Après, ça finit par toujours partir un petit peu en voilà. Donc nous allons donc démarrer cette émission par parler de la New 3DS. Ce sera la première partie de l'émission. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera des deux DLC de Mario Kart 8, parce que c'est vrai que c'est quand même une nouvelle un petit peu importante, ça fait du gros DLC pour un très gros jeu sur Wii U. Et on va commencer
tout de
suite.
Et
des gros sous-sous pour le gros Nintendo. On va commencer tout de suite par un tour de table de l'actualité. Je vous annonce tout de suite qu'il va être assez léger, parce que si on rattrape toute l'actu depuis le début septembre, on va pas s'en sortir. Donc on va essayer d'étaler ça un petit peu sur quelques émissions quand même. Donc voilà, je sais pas qui avait un sujet. Moi j'en ai un, mais je sais pas qui d'autre avait un sujet.
Vas-y, commence.
Je commence, parce que là, ça fait juste 5 minutes que je parle, en fait, donc c'est pas...
Ah.
Allez, Méduse, t'as un sujet?
Ouais, non, moi, j'avais pas spécialement de vrai sujet actuel à fond, mais j'ai profité, on va dire, des vacances pour essayer quelques démos de jeux. D'abord, je vais parler vite fait, très vite fait, de celle du Phoenix Wright 3DS, qui est en promo pour le moment jusqu'au 2 octobre. Et je veux dire, c'est de l'anglais pas très compliqué, c'est du Phoenix Wright, c'est disponible uniquement en démat. Et franchement, pour 15 boules, là, la petite démo, elle m'a donné bien envie. Donc j'invite tout le monde qui a un petit peu de temps à l'essayer. C'est Phoenix Wright Dual Destinies, je crois. Voilà. Et aussi, je veux pas parler de toutes les démos que j'ai essayé forcément, mais juste parce que ça fait l'actu, il y a le Final Fantasy Theater Rhythm qui vient de sortir sur 3DS, le jeu musical dans l'univers Final Fantasy là. Et alors autant ça a l'air assez, forcément c'est un jeu de rythme, donc c'est super accrocheur. Et puis voilà, parce que quand on est des bots, on aime bien essayer de répéter à la perfection le geste tout le temps. Et en plus, dans la démo, il y a deux modes de jeu. Il y a le normal et l'ultimate. Alors l'ultimate, moi je suis pas une bête en jeu de rythme, mais l'ultimate c'est vraiment le truc. La musique démarre en 4 secondes, c'est game over, quoi. Par contre, il y a un truc que je trouve un peu dommage, donc c'est qu'on peut jouer soit au bouton ou bien au tactile. Donc, comme c'est à la 3DS, forcément, l'action elle n'est pas centralisée sur l'écran tactile, mais c'est sur l'écran du dessus. Et donc, l'écran tactile il sert juste de zone un petit peu d'émulation de stick, en fait, pour faire coulisser les endroits qu'il faut faire suivre. Pour suivre en rythme la musique, quoi. Donc autant au bouton ça marche relativement bien, sur le tactile c'est pas dégueulasse non plus. Par contre il y a pas moyen de combiner les deux, c'est-à-dire que j'aurais voulu pouvoir d'une main pouvoir appuyer sur les boutons quand il faut appuyer en rythme, et de l'autre pouvoir maintenir quand il faut maintenir. Il faut essayer la démo pour comprendre. On peut pas combiner les deux. Quand on déclenche une action au stylet par exemple, on peut pas la finir avec le stick.
D'accord, ça, tu joues soit en tactile 100%, soit en bouton 100%, mais tu peux effectivement pas faire
tu peux faire un coup l'un, un coup l'autre, mais c'est-à-dire par exemple que quand tu veux suivre au stylet un certain truc, en fait, il y a des moments où tu dois suivre au stylet, laisser enfoncer le stylet sur une certaine trajectoire, et juste avant de relâcher, il faut faire aller le stylet dans une direction, une des 8 diagonales, quoi. Enfin, haut, bas, gauche, droite, ou bien les diagonales. Eh bien, tu peux pas, vu que ça, par exemple, en ultimate, ça va super vite, et donc le temps de faire coulisser, de bien suivre ton truc, et après de faire le geste vers la diagonale, c'est vraiment quasi impossible. Et je me dis, je vais essayer simplement de commencer au stylet, et puis de finir au stick, faire juste l'impulsion de la diagonale au stick, et tu peux pas. Ce genre de geste-là, je trouvais ça un petit peu dommage.
Mais à part ça,
sinon, c'est quand même assez bien foutu. Il y a l'ambiance FF, et pour un jeu de rythme, c'est super cool. Mais c'est le genre de petit détail qui aurait. C'était pas compliqué à programmer, à mon avis, de pouvoir tenir compte des deux à la fois, juste pour ce genre de petit geste. Voilà, voilou. Les autres démos seront pour la prochaine fois.
Ouais, mais il y aurait peut-être pas eu de challenge, voilà, c'est tout.
Ouais, non, si, quand même, c'est hardcore. Essayez si vous avez l'occasion, franchement, c'est un peu ouf comme truc.
D'accord, je vais enchaîner sur le mien alors. Vous le savez peut-être déjà, le système de blocage régional de la N64 et de la Super NES sont très similaires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux puces régionales dans les consoles. Une puce PAL et une puce NTSC. Alors évidemment, les jeux qui sortent dans les zones PAL ont la puce PAL comme les consoles, les jeux qui sortent en zone NTSC ont la puce NTSC. Et donc la zone PAL concerne l'Europe et l'Australie, la zone NTSC concerne le Japon, les États-Unis et le Canada. Donc théoriquement, les consoles américaines et japonaises sont parfaitement compatibles, en fait elles ont les mêmes puces de blocage régional. Le seul truc qui empêche les jeux japonais d'être lus sur une console américaine, que ce soit sur Super NES ou sur N64, c'est la forme de la cartouche. Alors sur Super NES, la cartouche est complètement carrée, donc elle rentre pas dans une Super Famicom, et inversement, la Super Famicom rentre pas dans la cartouche, dans une Super NES américaine. Et sur N64, c'est un peu le même système, il y a deux encoches à l'arrière, en fait, de la cartouche. Aux États-Unis, elles sont complètement aux extrémités, alors qu'au Japon, elles sont un petit peu plus centrées. Comme en Europe d'ailleurs, elles sont un tout petit peu plus centrées. Mais voilà, mais en théorie, pour jouer à des jeux japonais sur des consoles américaines, sur ces deux consoles-là, il suffit en fait de limer le porte-cartouche à l'intérieur ou à l'extérieur pour pouvoir faire rentrer en fait un peu au forceps la cartouche dedans. Ou alors de désosser complètement la machine et de carrément jouer avec la machine nue, la carte mère nue, et puis directement de brancher les jeux dessus.
Donc, des coups de soie de fer à souder, nous, avant.
Voilà, quand t'étais jeune, tu pouvais aussi faire ça. Donc sur Super NES, voilà, c'est le moyen pour jouer entre jeux Jap et américains, finalement, ça se passait assez bien. Pour nous autres pauvres Européens, on n'avait que deux solutions sur Super NES, c'est un adaptateur. Alors, l'adaptateur, le principe est con, mais une cartouche PAL, une cartouche NTSC dedans, et en fait, l'adaptateur lit la puce régionale PAL, mais lit le jeu NTSC. Donc on joue en 50 Hz, mais tu peux quand même jouer à tes jeux américains. Sinon, la deuxième solution, c'était effectivement le coup de fer à souder à l'intérieur de la Super NES pour pouvoir en fait coller en général un petit interrupteur qui permet de passer de la zone PAL à la zone NTSC. C'est tout bête. Et sur N64, malheureusement, bah, jusqu'à présent, il n'y avait pas de solution. C'est-à-dire que on peut pas la switcher, elle a vraiment que la puce PAL à l'intérieur et on peut pas faire autrement. Et les adaptateurs du type qui existaient sur Super NES ne fonctionnent pas à tous les coups parce que la plupart des cartouches ont des systèmes anti-piratage un petit peu plus évolués qui font que ben, ils vont bloquer les cartouches NTSC même avec un adaptateur. Ce qui est un petit peu embêtant. Et donc jusqu'à cet été, eh ben, personne n'avait réussi à trouver de moyen de lire des jeux, enfin de dézoner complètement une N64. Et c'est là que se radine otakustore.net, alors que vous ne connaissez peut-être pas, c'est une toute petite PME qui est basée à Mantes-la-Ville. Et qui a un atelier qui fait du rétro gaming, qui fait du modding de consoles et autres, et ils ont sorti cette année, cet été, un forfait modding N64, dézonage complet de la machine. Mais alors, complet. Alors, ils donnent pas les plans, j'ai pu jeter un œil, c'est quand même assez costaud comme modification, voilà, le principe est tout con, ils liment l'intérieur du port cartouche de n'importe quel N64, Jap, américaine, européenne, aucun problème, on peut coller n'importe quelle cartouche de N64 dedans, on allume et en fait il y a une puce qui va aller détecter la région, envoyer les bons codes à la console et au jeu, et qui va changer la couleur de la LED sur le devant. Donc quand on met pas de cartouche, la LED reste rouge, quand on met une cartouche PAL, la LED passe au bleu, et quand on met une cartouche NTSC, la LED passe au vert. En plus c'est joli. Et ça lit 99,9% des jeux, c'est-à-dire que eux jusqu'à présent n'ont jamais eu un seul jeu qui n'est pas passé dessus. Donc on peut avoir.
Oui, c'est pas mal ça.
C'est pas mal, surtout que voilà, c'est la première fois qu'on a vraiment un truc comme ça. Alors c'est inspiré de pas mal de modeurs avant, simplement ils ont un peu perfectionné la technique. Ça fonctionne sans aucun switch puisque la région de la cartouche est détectée automatiquement quand on allume la console. Et donc l'énorme intérêt, c'est alors pour un Américain faire dézoner sa console, bon, c'est pas forcément super intéressant. Il y a deux trois trucs qui peuvent être intéressants. Il y a quelques jeux PAL exclusifs qui existe quand même. À ma connaissance, il y en a une petite demi-douzaine. Il doit y avoir quelques jeux de foot qui n'existent pas aux États-Unis. Il y a un jeu qui s'appelle Tasmania Express, qui est pas extraordinaire, mais qui est sorti qu'en Europe. Et il y a F1 World Grand Prix 2 de Ubisoft, qui n'est sorti qu'en Europe. Donc, pour les collectionneurs américains, il y a que cette demi-douzaine de jeux-là qui est intéressant. Néanmoins, il y a d'autres jeux qui sont intéressants. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les jeux de foot européen, le soccer, machin, c'est extrêmement rare. Il y en a relativement peu. Un ISS 2000 aux États-Unis, ça peut coûter jusqu'à $250. Alors que dans une brocante en France, si tu peux le négocier pour 1 euro, hein, tout le monde s'en fout.
Ah, carrément.
Ah, non, mais enfin, ISS 2000, c'est. Voilà.
Du coup, ça tire du 60 Hz
Alors non, malheureusement, les jeux PAL restent en 50 Hz, c'est les jeux américains en 60 Hz, quelle que soit la console. En fait, la fréquence de rafraîchissement est codée dans le jeu. Elle n'est pas codée dans la console.
Ah, mais du coup, on tire du 60 Hz sur les jeux ricains.
Les jeux ricains, on tire du 60 Hz dessus.
C'est déjà très bien.
Ce qui est déjà très bien, ça je te l'accorde. Voilà, donc pour les Américains, ça a assez peu d'intérêt. Quelques jeux de foot, quelques trucs comme ça, mais c'est limité. Alors, moi, j'ai toujours trouvé que les jeux PAL sur N64 avaient tendance à moins ramer que les jeux NTSC. Donc, éventuellement, ça peut être intéressant pour les Canadiens, Américains qui voudraient jouer à des jeux un poil plus optimisés. C'est-à-dire, en 50 Hz, j'ai l'impression que ça rame moins. Après, c'est peut-être juste une impression.
Ouais, ou alors c'est toi qui es codé en 50 Hz.
C'est peut-être moi qui suis codé en 50 Hz. Avec... Du coup, quand à 60, je perds la synchro et voilà. C'est possible. Il y a un deuxième intérêt pour les Américains, c'est que les jeux européens disposent en général de plusieurs langues, ce qui n'est pas toujours le cas des jeux américains. Donc si tu veux jouer en espagnol ou en français, les cartouches PAL en général, il y a ce qu'il faut. Alors par contre, pour les joueurs européens, ça a un énorme intérêt parce que tu peux aller acheter des jeux qui sont jamais sortis en Europe, tout bêtement. Je pense à Sin and Punishment, qui est sorti au Japon. Je pense à Indiana Jones et la Machine Infernale, qui est sorti qu'aux États-Unis.
Ogre Battle 64,
sorti qu'aux États-Unis. Il y a quand même quelques très bons jeux qui n'ont jamais franchi l'Atlantique, et puis parfois qui sont jamais sortis du Japon. Donc ça peut quand même valoir le coup. Et après, il faut savoir qu'il y a aussi des jeux qui sont sortis en zone PAL, mais qui sont extrêmement rares sur N64. Alors StarCraft 64 par exemple est sorti en Australie mais pas en Europe, donc il y a une version PAL mais elle est super rare. Alors qu'aux États-Unis, c'est un jeu qui est ultra commun, donc pour 10€ frais de port compris sur eBay, on peut l'avoir sans aucun problème. De la même manière, il y a un Resident Evil 2 PAL sur N64, ça coûte facile 80€ en Europe. Aux États-Unis, pour 5-6$, on en a un. Conker's Bad Fur Day en Europe aujourd'hui, j'ai vu des lots complets qui partaient à plus de 250€, alors qu'aux États-Unis, pour mal. Une quinzaine de dollars, on en a un. Donc voilà, ça peut valoir le coup. On peut avoir une machine qui est capable de tout lire, et en plus, comme aujourd'hui Otaku Store est capable de vendre, enfin de rendre n'importe quelle N64 compatible RGB, bah vous leur envoyez votre console, vous prenez les deux forfaits, ça vous coûte un peu cher, hein, ça, c'est pas gratuit, mais derrière c'est vous avez la N64 ultime. Alors le forfait RGB, je crois, est à 45€, un truc comme ça, pièce main d'œuvre tout compris. Et le forfait modding est à 80€ le dézonage complet, ce qui est quand même cher. Par contre, enfin, voilà, avoir vu les plans derrière, c'est quand même assez technique. Donc on doit pouvoir le faire soi-même, ouais. Mais c'est un peu touchy, quoi.
Et ça coûte combien 3 N64 d'occasion de chaque zone?
Mais ça prend plus de place, attention.
Ça prend plus de place.
Ah, mais c'est la classe d'avoir 3 consoles.
Et t'as pas des lumières de couleurs différentes.
Voilà. Mais t'as pas besoin pour la japonaise et l'américaine. Il suffit d'avoir une américaine et de limer les ports. C'est bon. Donc, tu limes l'intérieur du port cartouche et c'est bon.
Donc, c'est en train de nous vendre un faux bon plan, en fait.
Et sinon, quand est-ce qu'ils inventent la machine à remonter dans le temps pour nous rendre ça accessible quand c'est intéressant?
Ça, par contre, tu l'auras pas.
Ah.
Malheureusement, tu l'auras pas. Bon, voilà, mais c'est moi, je trouve ça intéressant. C'est vrai que jusqu'à présent, tout le monde était parti du principe que c'était impossible de dézoner une N64. Et en réalité, bon, quand même des gens qui se sont intéressés au sujet et qui l'ont fait. Donc effectivement, ça m'aurait beaucoup plus intéressé en 1997, mais déjà en 2014, bon, moi je ne l'ai pas encore faite.
Non, mais en 1997, tu ne savais même pas que le Japon, ça existait.
Mais si, en 1997, je savais que le Japon, ça existait. Je savais parce que je lisais le dojo en 1997, et figure-toi qu'en 2001, il y a un certain Olivier Desange qui a fait un test de Sin and Punishment, et on était tous en train de baver devant le test, hein, je parle, et oui. Il n'est jamais sorti hors du Japon. Voilà, mais
Sauf maintenant sur console virtuelle.
Alors effectivement, si tu joues sur console virtuelle ou sur émulateur, tu n'as pas ce problème.
Voilà.
Plus problème de zone sur une console. Mais bon, je trouve ça intéressant qu'il y ait des gens qui essayent toujours de
complètement
d'aller casser les consoles même plusieurs années après.
Voilà. Le serveur. Voilà.
Tout à fait. Eh bien, messieurs, nous allons faire une première pause musicale. Parce qu'il est temps. Et non, la pause musicale est comme la matière.
Fais-en une fin brève.
Avouez que je vous y attendiez pas, celle-là. Et donc,
t'es en train de chercher ton MP3, toi.
Je suis en train de meubler, tu vois, pendant que. Voilà. Alors, j'ai fait les playlists parce que j'ai pas eu le temps de faire les playlists pour préparer cette émission. Donc,
et la rentrée.
On va écouter. Ah ouais, non, mais attends.
Sinon, Gueuze, tu vas nous engueuler. Il faut dire joyeux anniversaire à Nintendo aujourd'hui qui a 125.
Ah, pardon. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Allez, attends une minute.
Et nous voilà de retour.
Oh, bien joué.
Joué.
Quel synchro.
Synchro.
Cro. En parlant de cro, d'ailleurs.
Non, mais il fait bien. C'est l'état d'esprit.
Eh bien, en parlant de choses sérieuses.
Voilà, je vais laisser Méduse introduire le sujet de la New 3DS.
Je parlais de quelqu'un d'autre.
Méduse peut introduire qui il veut, ça ne me regarde pas.
Pendant l'émission?
Écoute, quand tu veux, mon grand, maintenant, je dois t'avouer qu'un coït pendant une émission de radio, ça a relativement peu d'intérêt.
Hein. Allez, Oscar, on va à la carrière.
Et je te cache pas que ce serait quand même une première mondiale. Hein. Je pense que là, on exploserait tous les records.
Je pense pas que ça risque d'arriver, mais qui sait un jour. Oui, donc on va parler de la New 3DS qui a été annoncée, j'ai déjà oublié quand, tout récemment.
Pendant Deux semaines, trois semaines.
Ouais, genre comme ça, voilà. Au début septembre, en tout cas. Pendant un Nintendo Direct japonais, uniquement japonais, la machine sort dans 3-4 semaines au Japon, en deux déclinaisons, une déclinaison de type New 3DS XL et une autre normale. Et puis ben voilà, on va discutailler de ce que ça change, ce que
discutaillons.
Ce qu'on en pense. Discutaillons, mes frères. Allons-y. Qui veut peut-être ouvrir le bal avec ses premières impressions?
Alors.
Sirard va nous parler de couleurs.
Sirard va parler de couleurs, ça c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur la 3DS? Alors, Sirard, je te laisse passer, vas-y.
On fait chacun une fonctionnalité, c'est ça?
Allez, vas-y. Commence par la fonctionnalité que t'as retenue.
Le truc top. Non, en vrai. En vrai ou en 3D?
Non. Ah. Ce que tu nous as dit tout à l'heure, quoi.
Ce qui est top. Mais seulement sur la version normale, car donc nous avons une version normale et une version XL. Et donc c'est une fonctionnalité uniquement sur la version normale. Les boutons de la console sont de la même couleur que le pad de la Super Nintendo. Et ça pour les pré-90, pas les post-90, les petits merdeux.
Oui, mais note, elle est sortie en 91. Hein.
Top.
La Super NES.
Ouais, mais
c'est vrai
à un moment, tu crois qu'ils y jouaient?
Non, il y a peu de chance.
Donc ça c'est top. Par contre sur la version XL, et vu que il y a que la version XL qui compte, il y a que les lettres, je crois, qui ont ces couleurs là et ça c'est ça pue du cul un petit peu.
Attendez, okay. C'est pas une histoire de juste blanc ou noir. Je pose la question parce que j'ai l'impression que la blanche a les boutons complètement colorés et que la noire
tu
a juste les lettres
non,
colorées. C'est l'impression
c'est
que ça me donne.
La 3DS normale qui a les boutons Super Nintendo et la XL qui a couleur mais juste
sur les lettres.
Sur les lettres, ouais, voilà, pas sur le fond.
D'accord, j'avais l'impression que c'était le blanc-noir qui faisait la différence. D'accord, donc j'ai rien dit.
Donc, Satoru, yeah. Si tu nous écoutes, si tu veux vendre des 3DS XL en Europe, assez rare,
surtout à moi.
Change la couleur des boutons.
Bon, enfin, c'est une fonctionnalité indispensable.
Tu changes la couleur des boutons pour
les coques.
Elle est vendue.
Les coques qui ne sont changées, mais uniquement sur la normale, pas sur la XL.
Ouais.
Et moi, je trouve ça complètement fou, cet abandon un peu de fonctionnalité, enfin bon, pour les boutons c'est pas très grave, mais en tout cas pour les coques.
C'est simplement que la 3DS normale vise les enfants et la XL vise les adultes. Donc ils se permettent des fantaisies sur la 3DS normale qui ne se permettent pas sur la XL, puis notamment les coques qui voilà, dans leur point de vue, c'est que les adultes ils préfèrent un truc sobre. Alors que la 3DS normale, ouais. Qui vise les enfants, on peut se permettre des fantaisies, alors. Des coques rigolotes, des boutons de couleur, etc. Quoi.
Bah, moi j'avais.
Je suis un adulte et je veux une Hello Kitty.
Voilà. Moi j'avais justement le raisonnement un peu. Enfin, pas le raisonnement, mais j'avais un peu le point de vue inverse dans le sens où justement. Ceux qui vont vouloir mettre un petit peu de pognon à chaque fois pour une coque, c'est peut-être justement les adultes qui vont trouver ça un peu plus marrant. Et sur XL, pourquoi pas, quoi. En plus, avec les imprimantes 3D qui vont un peu se démocratiser, tout ça, je suis certain qu'il y a des gens qui vont faire leur coque un peu personnalisée, ce genre de truc. Je suis certain qu'il y a
Et moi, je suis certain qu'il y aura un brevet de Nintendo pour t'en empêcher.
Ouais. Une puce NFC dans la coque, si t'as pas la coque officielle, ça marche pas.
Putain, le blocage régional de la coque. Tu peux acheter ta coque au Japon, mais qu'avec une New 3DS japonaise. Ça, ce serait
bien. J'aurais bien vu. En plus, les coques, ils ont déjà prévu, je sais pas combien. Il y en a quoi, une quarantaine, allez. Comme ça, la grosse.
Il y a tous les personnages de Nintendo, plus quelques séries fans. Enfin, il y a pas mal de trucs. Hein.
Ouais, s'il y avait eu les déclinaisons pour 3DS XL systématiquement, je pense que ça aurait été un bon plan de leur part.
Bon, je reconnais que j'en aurais pas acheté, cela dit. Mais...
ça aurait été le bordel pour les magasins aussi.
Ah oui, ça c'est clair.
Oui, c'est-à-dire que pour les revendeurs, effectivement, ça simplifie pas la vie. Bon, voilà, mais en dehors de ces aspects purement esthétiques, une des nouveautés phares de cette nouvelle 3DS, c'est quand même le joystick, le truc qui sert quand même pas à grand-chose. Enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a des jeux... Parce que je me rappelle que sur 3DS, il y avait le Circle Pad Pro, Je suis même pas sûr que ça a été reconduit sur 3DS XL. Il y avait un Circle Pal
Pro XL. Ici, il y en a un XL. Mais par contre, il y a toujours aussi peu de jeux qui l'utilisent, à part de mémoire, enfin en jeu plus ou moins intéressant. T'as Kid Icarus Uprising.
C'est optionnel.
Il l'utilise pas.
Si, il l'utilise.
Le Kid Icarus, non, il est pas compatible avec le Circle Pad.
Si, il est compatible avec le Circle Pad.
Je veux. Oh.
C'est un gaucher qui a le jeu qui te le dit.
Bataille.
Je vais quand même vérifier.
Voilà. Alors, ce qu'on va faire, chers auditeurs, Méduse va vérifier et s'il est de très mauvaise foi, voilà, on laissera Oscar et Méduse se battre. Voilà, là maintenant.
On va faire un enfant à la place.
Écoute.
Non mais ça suffit maintenant. Là, c'est mis sur la boîte. Enfin bref, il y avait ça, il y avait le Metal Gear. Snake Eater, je crois. Alors,
tu te sens en anglais, toi.
Monster, bah ouais, t'as vu. Je m'améliore. Monster Hunter et peut-être Resident Evil Revelations. Allez, non, je suis pas sûr. Mais grosso modo, à part ces quatre jeux-là, enfin, le Resident il est pourri, mais à part trois jeux, on va dire, le reste c'est du détail, quoi. Après, il y aura Monster Hunter 4, d'accord, mais.
Il est compatible pour Kid Icarus, mais pas pour le. Effectivement, juste pour les gauchers. Donc c'est juste une. C'est un truc. Enfin, ça remplace pas le
gameplay du jeu. Non, ça remplace pas la caméra. Ça c'est sûr. Voilà. Le
principe, c'est que Nintendo ne l'utilise pas le Circle Pad. C'est juste pour Capcom en fait. Donc ça fait que vu que l'écrasante majorité des jeux intéressants sur 3DS sont des jeux de Nintendo, ça limite les possibilités quoi du coup.
Mais je pense qu'il faut pas raisonner en termes de jeux déjà sortis qui l'utilisent, mais en possibilité de sortir des jeux maintenant qui l'utiliseront parce que la nouvelle console, toutes les nouvelles consoles en seront équipées.
Alors est-ce que c'est vraiment intéressant ça parce que je me permets de faire un petit retour en arrière entre la DS Fat, donc la DS d'origine grise moche, et la DS Lite, c'était le même firmware, le même hardware, quasiment, et c'était la même librairie de jeux. Il n'y avait aucune différence. Simplement, bon, bah, elle était moins moche, la DS Lite, elle était plus petite, elle était plus sympa, l'écran était meilleur, et ainsi de suite. Avec la DSi, il y a eu une rupture. C'est-à-dire que la DSi était, il y avait le navigateur qui était intégré, il y avait un nouveau firmware, donc c'était toujours compatible avec les jeux DS qui étaient sortis jusqu'à présent. Les jeux DS qui sont sortis après, la plupart étaient compatibles avec la DS Lite. Je crois qu'il y a eu très très peu de jeux qui étaient uniquement dédiés à la DSi.
Ouais, il y a eu quelques, c'était uniquement les jeux en démat.
Il y a eu quelques jeux, il y a tout ce qui était DSiWare.
Il y en a eu deux, trois
jeux qui servaient des caméras.
Ouais, voilà, ouais.
Les caméras internes ou des trucs comme ça.
Truc pour le muscler le visage, là, ou je sais pas quoi. Voilà, il y a 1€ dans les magasins.
C'est pas grand-chose, mais il y avait quelques jeux qui utilisaient ces capacités-là. Mais c'est surtout, voilà, on avait un hardware plus puissant, elle était enfin compatible avec du Wi-Fi WPA et ainsi de suite. Est-ce que la New 3DS, pour vous, on est à ce genre de révision-là? C'est-à-dire, finalement, c'est le changement dans la continuité. Et c'est, on va essayer de relancer une machine qui a déjà 3-4 ans, en sortant un nouveau modèle qui va avoir plus de RAM, qui va avoir quelques options en plus, qui fait que voilà, on pourra avoir des jeux qui ne seront compatibles qu'avec cette New 3DS, mais ça va rester des cas assez minoritaires.
Je crois que ça ressemble plus au cas du Game Boy Color, où il y a quand même des... Parce que l'ajout d'un bouton, finalement, c'est vraiment quelque chose de supplémentaire. C'est, bon, une caméra, c'est pas...
On a deux gâchettes en plus en supplément de l'ajout du stick.
Ouais, et donc je pense que le passage du Game Boy classique au Game Boy Color, malgré tout, ça, moi, il y a eu aussi plus de RAM, plus de puissance. Et malgré tout, tous les jeux d'ancienne génération fonctionnaient dessus. Et les nouveaux jeux exploitaient vaguement les possibilités, mais c'était pas toujours indispensable. Bon.
Moi, je suis pas trop d'accord. Enfin, je rejoins plus que d'Immortal sur le fait que c'est plus comparable avec la DSi dans le sens où la Game Boy Color, il y avait quand même un côté nouvelle console. Là, ça reste une révision de la 3DS. Les jeux qui seront exclusifs à la New 3DS, ils vont quand même être super minoritaires parce que Bah parce que tu te coupes d'un parc de consoles vachement important.
Possible. Ouais. Alors, ouais, ça c'est
clair. Tu vas me dire, c'était pareil pour la Game Boy, mais la Game Boy Color avait quand même, elle arrivait presque 10 ans après la sortie de la Game Boy originale. Donc il y avait plus un côté, on peut se permettre de faire des jeux exclusifs sur Game Boy Color parce que les gens, de toute façon, ils ont plus leur vieille Game Boy, ils achètent la Game Boy Color. Quoi.
Oui, là, t'as un petit problème. Oui, effectivement, t'as une petite problématique de parc. Est-ce qu'on a une idée du parc de DSi par rapport aux autres DS, ou est-ce que on sait dire que sur l'ensemble du parc de DS, il y a 20% de DSi, ou il y avait 20% de DSi à un moment? Parce que ça, c'est sûr que ça va jouer. Alors, les grosses exclusivités vont faire qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont renouveler la 3DS qu'ils avaient achetée il y a un mois, par exemple, pour la 3DS XL.
On t'entend plus du tout, là.
Voilà. Si, moi j'entends.
Non, c'était
drôle.
Je suis désolé.
Tu as raté le moment drôle de l'émission. Non, parce que chers auditeurs, vous ne le savez peut-être pas, mais Mortal s'est acheté une 3DS XL il y a un mois.
Oui, donc voilà, Mortal est un winner.
Juste avant l'annonce. Non, mais moi j'ai l'impression que Nintendo va chercher. Enfin, autant avant, pour une même famille de consoles, ils avaient effectivement la Game Boy, puis la Game Boy Pocket, puis la Game Boy Color, machin. Puis pour la DS, il y a eu la DS, DS Lite, DS, DSi. J'ai l'impression aussi qu'ils vont, qu'on va avoir une famille New 3DS qui progressivement peut, à travers les années, glisser vers une autre famille. Donc, on va avoir une prochaine génération de consoles portables, et peut-être que Nintendo va faire des itérations entre la 3DS et cette prochaine génération-là, et que la New 3DS peut être une itération sur ce chemin-là.
Donc, tu penses à une espèce de continuité dans laquelle il n'y aurait pas une nouvelle console tous les 5 ans, mais il y aurait une révision finalement majeure tous les 3-4 ans?
Ouais, voilà, qui progressivement permettrait de déboucher sur autre chose. Ou peut-être qu'ils ont déjà en tête, on sait qu'ils commencent très tôt à bosser sur les prochaines générations de machines, peut-être qu'ils ont déjà en tête la prochaine génération et qu'ils sortent déjà la New 3DS comme une étape pour se rapprocher déjà de cette prochaine génération-là, en fait. Mais même si c'est pour sortir la vraie prochaine génération de portables dans 6 ans ou 7 ans, un truc comme ça, quoi.
Moi, je pense que vous cherchez trop compliqué. Pour moi, c'est super simple. C'est-à-dire qu'ils vont sortir leur nouvelle console portable dans 2 ans. Et là, ils ont simplement la New 3DS pour relancer un peu les ventes, quoi. Pour faire vendre des consoles à ceux qui ont déjà la 3DS et qui vont repasser à la caisse pour avoir une console un peu plus meilleure, quoi.
Ouais.
D'autant plus.
2 ans, ça me paraît plutôt quand même, mais.
Ils ont sorti tout leur catalogue. 2 ans, c'est. Enfin, dans 2 ans.
Ah oui, ils ont lâché la sauce. Hein.
On sera en 2016, ce sera exactement la même durée de vie que la DS à la 3DS. Et ce sera plus long que la Game Boy Advance à la DS.
Ouais, et ce sera exactement la même durée de vie que la DSi par rapport à la DS aussi. Hein. On va dire à peu près dans le même timing. Hein.
C'est vrai que je pense que le succès de la Wii U peut avoir le succès ou l'absence de succès de la Wii U peut avoir un impact aussi dans la mesure où Nintendo a précisé plusieurs fois cette année et un petit peu l'an dernier aussi qu'ils allaient essayer d'unifier leur plateforme, alors pas nécessairement faire une console unique, mais d'avoir un ensemble de machines qui soient un peu plus homogène. Donc je sais pas du tout si il faut attendre de voir comment évolue la Wii U.
On sait pas trop. Il y a eu beaucoup de enfin, j'ai l'impression que ça a été un peu mal compris. Ce qui a été clair de leur part, c'est qu'ils unifient les équipes de développement. Les mecs qui vont bosser sur les consoles portables vont bosser. Les mecs qui bossent sur les consoles de salon. Maintenant, ils ont jamais dit qu'ils allaient faire une console unifiée.
Ah non, ils ont jamais dit, mais ils ont dit clairement quand même qu'il y avait la notion que Nintendo avait de plateforme de jeu. Là, ils vont l'unifier entre portable et salon, tout en sachant que plateforme de jeu, ça peut simplement vouloir dire avoir le même compte pour ta Wii U et ta 3DS, par exemple. Chose qui aujourd'hui, ils ont tenté un petit peu les rapprochements, mais c'est pas encore tout à fait ça. Et peut-être pouvoir avoir des jeux de salon qui tournent sur portable et vice versa, comme ça se fait chez Sony, quoi, avec le cross-buy et ce genre de choses. C'est peut-être juste ça qu'ils veulent dire.
Ouais,
effectivement, on n'a pas d'autres éléments.
Ça, je pense pas qu'ils vont partir là-dessus, parce que justement, l'intérêt de la façon dont fonctionne Nintendo, c'est qu'ils font des jeux adaptés pour les supports et qu'ils font des jeux différents sur console portable et console de salon. Et enfin, on le voit bien avec Smash Bros, c'est qui sort à la fois sur 3DS et Wii U. Leur intérêt, c'est de vendre aux mêmes personnes la version 3DS et la version Wii U. C'est pour ça qu'ils les sortent pas en même temps et c'est pour ça qu'ils font des jeux qui sont quand même différents. Donc,
moi, tant qu'ils font pas un New Smash Bros ça, deux semaines après que je l'ai acheté, ça me va.
Je crois que ça devrait aller alors. Ouais, bah, pour revenir à l'histoire du stick droit, effectivement, on sait pas trop. Enfin, je veux dire, quand la New 3DS va sortir, est-ce que déjà le stick droit servira à remplacer le Circle Pad? Je suis pas certain.
Parce que là, si, pour Monster Hunter.
Vu la taille,
oui, pour le Monster Hunter, peut-être un peu compliqué. Mais je veux dire, par exemple, pour Kid Icarus ou Monster Hunter 3, est-ce qu'il sera compatible
Est-ce que ce sera est-ce que ça pourra émuler un Circle Pad pour les jeux qui l'utilisaient? Ouais, voilà.
Bah, logiquement si.
Logiquement si, mais ils l'ont quand même pas précisé. Je pense pas qu'ils l'aient précisé, je suis pas certain.
Alors, je vois que je ne sais pas, moi ça me paraît tellement évident. C'est parce que les ajouts, c'est comme les.
Mais sinon, ils vont faire un New Circle Pad 3DS.
Non mais de manière basique, la New 3DS c'est une console un peu améliorée, hein, avec un meilleur écran, avec les composants du Circle Pad, c'est-à-dire le nouveau stick et les deux gâchettes, et la capacité NFC, et puis un peu plus de RAM, quoi.
Pour résumer, donc, t'as évoqué un de points majeurs.
C'est vrai que niveau hardware,
j'en ai parlé. C'est le nouvel écran qui je pense va corriger un des gros problèmes du relief, de la 3D relief de cette console, c'est que dès que tu penches un tout petit peu
l'angle de vision.
Ouais, dès que tu penches un tout petit peu la console, et donc tu es quand même censé pas mal le faire quand tu joues, surtout quand c'est un peu stressant et que l'action elle devient un peu compliquée, tu bouges un tout petit peu et ça y est, tu perds la 3D. A priori, ça devrait être un peu résolu avec ce nouvel écran. Alors, j'ai entendu une mauvaise langue qui disait aussi que c'était qu'il s'était pris un procès dans la gueule et qu'il changeait la techno pour
alors ça c'est bien possible,
pour éviter les royalties.
Alors ce que nos jeunes auditeurs ne savent peut-être pas, hein, c'est que Cyril est un joueur donc des années 80 et que donc il penche la manette en même temps que la tête quand il doit tourner à gauche ou à droite dans un jeu de course. Voilà, c'est important de préciser.
C'est important. Je le fais sur Mario Kart 7.
En même temps, vous l'avez laissé activer la 3D ou ça fait longtemps que vous l'avez viré parce que...
Moi, je l'activais, mais à cause de ça, je l'active plus parce que...
Ah merde. Donc du coup, c'est...
Moi, je joue sur 2DS, donc...
Carrément.
Non mais effectivement, il y a la question des royalties sur l'écran, c'est peut-être pas impossible qu'effectivement le nouvel écran ce soit à cause de ça. Maintenant, ils auraient très bien pu intégrer ça... au 3DS classique, finalement, faire un petit peu comme Sony qui a fait régulièrement des révisions de l'écran sur sa PSP, par exemple. Enfin, ils auraient très bien pu changer les écrans sans être obligés de ressortir une nouvelle console. Je sais pas si ça va changer grand chose. J'ai l'impression que la révision est meilleure, mais que ça va pas être non plus extraordinaire.
Hein. Bah, quand même, d'après le retour qu'on a de ceux qui sont allés essayer au Tokyo Game Show, ils disent juste que c'est le jour et la nuit par rapport à avant. La perception de la 3D, l'angle, il y a même quelqu'un qui peut regarder jouer et percevoir la 3D en même temps, c'est super, quoi.
Alors, du coup, je me demande comment ils font.
Rien. C'est l'écran, quoi, quand même.
Mais non, d'accord, mais du coup, je me demande vraiment comment ils font.
Alors ils ont bien bossé avec notre fabricant.
Ou alors ils ont fait, en fait ils ont construit maintenant ce qu'ils étaient censés construire il y a 2 ans, en fait. C'est 3-4 ans, pardon.
Tu veux dire comme avec la Wiimote et le Wii Motion Plus.
C'est comme le Wii Motion Plus, quoi. Ils font au bout de 3 ans ce qu'ils avaient promis dès le départ.
Donc tu peux nous prédire un nouveau gamepad pour la Wii U bientôt, ça c'est...
Un qui marche, c'est-à-dire qu'il y a de la batterie, qui prend pas la poussière dans les petits coins parce que l'écran est enfoncé dans le gamepad, et qui est multipoint, enfin je suis sûr qu'ils vont le faire, hein. Et que nous, comme des cons, on repassera à la caisse.
Bah oui.
Ça me paraît, parce qu'on est des vrais glands.
Qu'est-ce que vous pensez
toi, tu passes à la caisse avant.
Oui, alors moi je fais partie des modèles particulièrement cons.
Voilà. Toi, tu vas acheter un protège-écran pour ton gamepad, puis ils vont annoncer un nouveau gamepad.
Avec le protège écran, c'est pas compatible. Ouais. C'est
important. Qu'est-ce que vous pensez du premier jeu Wii sur 3DS finalement, avec le portage de Xenoblade?
Les images qu'on a vues, ça fait joli. Faut reconnaître que.
Je trouve que ça fait un peu dégueulasse, mais c'est normal, c'est la résolution de la 3DS qui est basse.
La résolution de la 3DS est pas élevée, mais pour de la 3DS, je trouve que c'est pas si dégueulasse que ça. Voilà.
Après, faut voir sur un écran 3DS quand tu
après le problème c'est que voilà, aujourd'hui tu le vois sur une vidéo YouTube, oui, évidemment ouais. 240p que t'as grandi en 1080p sur ton écran fait un peu mal au cul. Après sur le vrai écran du New 3DS, s'il est si extraordinaire que ça en plus, ou sur le vrai écran du New 3DS XL, ça rendra peut-être très bien. Je pense que ça rendra bien. Maintenant, est-ce que il va falloir s'inquiéter pour ça d'ailleurs, se dire finalement, parce que là il y a un gros jeu qui utilisera, enfin qui ne sera compatible que New 3DS. Est-ce que vous pensez que va y en avoir beaucoup d'autres? Est-ce que vous pensez qu'il y a des jeux qui vont être amputés de certains modes de jeu ou de certaines fonctionnalités si t'as pas une New 3DS par exemple?
Non, ça je pense pas. Enfin, je pense pas qu'ils vont amputer les jeux, mais par contre, le CPU plus puissant dans la New 3DS leur permet de faire tourner apparemment du jeu Wii, ce qui est plutôt pas dégueulasse du tout. Donc à mon avis, vont peut-être, je sais pas s'ils vont pousser la console virtuelle Wii, j'ai envie de dire, enfin ou les portages de jeux Wii sur 3DS, ça peut être.
Ah bah moi je verrais bien un remake de Cerebral Academy sur 3DS, New 3DS, je pense bien ça.
Enfin vous exagérez, il est quand même assez dégueulasse le Xenoblade là sur la New 3DS.
Oh, oui, mais on n'a pas New 3DS devant les yeux.
On l'a pas vu
voir,
sur l'écran
ça,
de la console, tu vois. Donc.
Oui,
d'accord. Ce que
je veux dire, c'est qu'on voit bien sur les images que c'est quand même. Enfin, la console est quand même pas aussi puissante que la Wii. Je vois pas comment ils pourraient faire une console virtuelle dessus, quoi.
En termes de puissance, je sais pas. Avec ce qu'on fout comme CPU dans les putains de tablettes et tout ça, ça peut aller vite, je pense. Hein.
C'est pas pareil.
C'est pas pareil.
C'est pas de la console virtuelle, c'est un portage quand même. Hein.
Bah oui, non mais voilà,
c'est un portage qui est pas encore fini et.
Ouais. C'est pour moi c'est du même niveau que Mario 64 sur DS.
Non, je pense que c'est d'un plus haut niveau. Parce que Mario 64 sur DS c'est une insulte quand.
Mais c'est pas notre niveau parce que la DS elle est moins puissante.
Mais c'est vrai que pour faire de la console virtuelle c'est mort, il faut que ce soit un portage. Portage développé pur, je pense.
Ouais, et puis je pense pas qu'ils vont se faire chier parce que les jeux uniquement New 3DS vont pas se vendre beaucoup. Hein. Ce Xenoblade, il va pas. Donc ils auront pas trop d'intérêt à en faire des masses des jeux comme ça.
Ah, sauf si justement ils en font suffisamment que pour bien pousser la console. Je sais pas moi, genre au Japon, tu fais Dragon Quest 11 sur New 3DS, c'est parti. Quoi.
Il faudra un gros jeu, mais oui, mais il faudrait pas que au Japon, le problème il est là.
Oui,
moi, s'ils font un Majora's Mask
Japon,
juste pour New 3DS, ben, je l'achèterais deux fois.
Deux fois.
Je l'achèterais une fois, non, je rachèterais une 3DS XL le jour d'avant la sortie de la New 3DS, tu vois, histoire de bien. Et puis en liquide, parce que c'est important de sentir le pognon qui fout le camp quand tu fais une connerie. Très important. Bref.
T'as pas encore digéré, hein, tu vois.
Ah non, moi, j'ai un peu mauvaise, hein, je dois t'avouer que ça me.
Mais en même temps, ils l'ont pas encore annoncé en Europe.
Non, mais bon.
Ça tombe, elle sortira jamais en Europe. Elle sortira jamais.
Est-ce que. Franchement, est-ce que vous croyez que c'est probable qu'elle sorte pas en Europe?
Non, c'est improbable, elle sortira.
De toute façon, je crois qu'ils ont confirmé qu'elle sortira en 2015, quoi.
Il y a eu des rumeurs indiquant que ce serait pour mars, mais il y a eu zéro confirmation ni annonce.
Ouais, donc je veux dire, il y a eu un communiqué officiel de la part de Nintendo pour dire que la console sortira en 2015, quoi.
De toute façon, si on a eu la Wii toute pourrie orange, on aura la.
Plus tard en Europe. Mais par contre, en termes de communication, ce serait peut-être intéressant d'en discuter. C'est quand même curieux qu'ils aient fait un Nintendo Direct japonais pour une nouvelle 3DS. Est-ce que ça risque pas de saborder un peu les ventes de fin d'année en Europe et aux États-Unis?
Ben, pour les gens qui sont au courant, faut quand même le suivre, le truc. Donc, oui, pour les fans, effectivement. Mais enfin, les fans, a priori, sont déjà équipés. Ils sont déjà équipés très récemment. Donc, ça, c'est bon. Mais je sais pas, effectivement, pour l'instant, tant que c'est pas annoncé, tant qu'il n'y a pas de date annoncée en Europe, c'était peut-être plus prudent aussi de pas. Enfin, ça aurait été con de faire un Nintendo Direct mondial, genre en grande pompe, et en disant, bon, bah, pour l'Europe, on n'a pas de date. Je sais pas,
oui,
ça aurait peut-être pas fait, quoi.
Bah, de toute façon, clairement, le truc sort que au Japon pour l'instant, donc ils vont pas. Ils limitent l'annonce au Japon, quoi. C'est logique.
Ouais, enfin, tu peux pas limiter une annonce à un pays en 2014 à l'heure d'Internet.
Si. Mais comment tu veux qu'ils soient au courant, les autres?
Si, en Iran.
Tu crois qu'ils ont Internet?
Il y aurait que nous qui sommes au courant.
Attends, en Corée du Nord, ils ont pas ce problème-là, hein, voilà.
Bah non, ils ont pas de console, c'est pas compliqué.
Ils vont faire un Nintendo Direct Corée du Nord, je pense, bientôt. Ils vont annoncer la sortie de la Game Boy.
Ouais.
Attends, c'est la révolution. Bon, trêve de bêtises. Messieurs, je vous propose de faire une petite pause musicale. Non, mais on reprendra après. C'est juste la trêve pour les gens. Je vous propose de faire une petite pause musicale et de s'écouter un petit morceau de la BO de Mario Kart 8, qui est la musique de l'Electrodrome. Avant de parler de Mario Kart 8, effectivement, avant d'entamer le dernier sujet de l'émission qui va justement concerner Mario Kart 8 et ses deux DLC.
Et les DLC en général.
Et les DLC un petit peu... Oui, voilà, en général. Un petit peu en général. Bon, bref, à dans 2 minutes. C'est parti. Et nous voilà de retour. Et Oscar nous entend.
Et dans cette dernière partie d'émission, on va parler de Splatoon.
Mais non. Il a rien suivi au programme.
C'est pas Splatoon, ça sort pas bientôt.
Ah non, c'est pas Splatoon. Et non, ça sort pas bientôt. Et je suis extrêmement frustré.
Je suis triste. On va parler de DLC, de Mario Kart 8.
Alors, on va parler des... Deux DLC de Mario Kart 8. Pourquoi tu parles comme ça?
Je sais pas.
C'est la mode.
Il faut changer le bouton.
C'est le bouton buffer en fait. La phrase se finit pas complètement. Il y a un petit souffle et après ça repart.
Exactement.
Donc on va parler de Mario Kart 8 et ses deux DLC. Alors c'est pas la première fois qu'on a un jeu Nintendo sur lequel il y a un important contenu dématérialisé post-jeu qui est annoncé. Je pense que le premier gros, c'était, vous me dites si j'ai des bêtises, c'était Fire Emblem Awakening.
Yes.
Où il y avait un énorme contenu qui avait été annoncé peu de temps après la sortie du jeu, ou un tout petit peu avant la sortie du jeu.
Ouais, en tout cas, il était disponible à la sortie du jeu. Aussi bien au Japon, je sais pas s'il était disponible le jour même, mais...
Non, un peu après.
En Europe, c'est le jour même.
Bon, là, Mario Kart 8, ça va, c'est pas le jour même.
Non.
Et on a deux énormes DLC, énormes dans le sens où le premier, enfin les deux cumulés rajoutent 16 pistes inédites.
Oui.
Ce qui viennent s'ajouter aux 16
pistes.
Voilà, plus 50% 16 pistes inédites qu'on avait à la base dans le CD du jeu. Somme.
Ouais. Non,
modique.
Continue, je te corrigerai après, mon vilain.
Alors, corrige-moi, tu peux me frapper sur les fesses après. Tout ça pour la somme modique de 12 €, c'est ça, si on prend les deux en pack?
Oui.
Si j'ai tout bien suivi, c'était bien.
8 € si on les prend séparément.
Voilà, donc on a un petit discount en plus si on prend les deux.
Voilà, on a 50% sur le deuxième.
Voilà, on va dire
Mortel,
ça comme ça.
Moi, je pense que tu devrais prendre les deux séparément.
Mais c'est ce que je ferais. C'est ce que je ferais. Ce que je ferais, c'est que je le prendrais pour deux Wii U différentes aussi. Ouais. Voilà.
Mais là, il peut pas, ça a déjà été annoncé. Normalement, il doit attendre que... Enfin, s'il doit le faire, quand c'est pas encore annoncé. Là, ils ont déjà annoncé. Donc ça va.
Ah oui, merde, bon, c'est raté.
Oui, donc, pour te corriger... Donc, dans
pour te fesser avec une pelle, donc vas-y.
Pour te fesser. Donc déjà, même si effectivement dans le Mario Kart 8 tel qu'on le connaît maintenant, la moitié des circuits c'est des remixes d'anciens épisodes, c'est quand même des remixes qui sont bien travaillés.
Oui, après, mais c'est ça s'empêche, t'avais 16 vrais nouveaux circuits et 16 circuits rétro.
Par contre, donc, quand tu lances Mario Kart 8 et que tu vas dans la boutique où ils présentent les deux packs de DLC, si tu regardes bien, on voit clairement que c'est pas que des nouvelles pistes, mais qu'il y a aussi des remixes d'anciennes pistes.
Ouais, mais en fait,
il y a dans chaque DLC, il y a 4 pistes inédites et 4 anciennes pistes.
Ça, ils ont pas encore confirmé ça. On sait juste qu'il va y avoir 16 pistes par DLC. Oui, circuits par DLC, mais ils ont pas confirmé que ce serait moite-moite entre les nouvelles et les remixes.
Ce sera peut-être le super moite-moite.
Ouais.
Non, mais enfin.
On peut le deviner.
On peut plus que le deviner dans le sens où quand tu vois à l'écran de sélection des ouais voilà t'as deux coupes classées dans la rangée des circuits inédits et deux coupes classées dans la rangée des circuits rétro.
Petite surprise, on sait jamais.
Mais oui, parce que Menus va te dire qu'il y a peut-être 6 circuits sur les championnats normaux et seulement 2 sur les rétro.
Du coup, ce serait un super moite-moite.
7 sur le championnat normaux et 1 circuit sur le championnat rétro.
Voilà, non mais ça va, c'est bon.
C'est bon.
En plus de ces pistes-là, il va y avoir des personnages supplémentaires. dont Link, donc ça veut dire que après la sortie du DLC, il y aura que des Link qui joueront online, hein, ça paraît pas certain.
Des Link et des Harmony.
Des Link et des Harmony, voilà, on va se retrouver avec ça. Comment il s'appelle le gros con là, Morton, voilà, Harmony. le beau trio de winners, quoi.
Complètement. Des Luigi Dexter aussi.
Des Luigi Dexter, oui. Alors, non, il n'y aura pas Reggie Fils-Aimé, pas prévu comme personnage jouable, moi je suis extrêmement déçu.
Sur le deuxième DLC.
Ouais, mais enfin, il y a Lemmy.
Ouais, mais enfin. C'est pas drôle.
Et il y aura des nouveaux véhicules, des nouveaux kartings.
Tout ça, à la limite, c'est un peu plus. Il y a des nouvelles pièces, me semble-t-il, en plus de.
Probablement, ouais.
Voilà. Alors, moi, j'ai quand même une petite question parce que j'ai pas trouvé l'info. J'ai pas non plus cherché pendant des heures, mais j'ai pas trouvé l'info. Les gens qui jouent en ligne avec les DLC, est-ce qu'ils pourront jouer avec les gens qui les ont pas ? On n'en sait rien.
En termes de pilotes qu'on peut jouer, tout ça, à mon avis, il n'y aura pas de problème. Par contre, pour les circuits, on risque d'être un petit peu baisé si on veut jouer sur un nouveau circuit.
Ça me paraît logique, mais si tu joues avec le perso Link, alors que le copain d'en face, il a pas Link, il voit quoi? Il voit un Mii, il voit un personnage générique?
Il verra Link, mais lui, il peut pas jouer Link, c'est tout.
Ah, il le verra, mais il pourra pas le jouer.
Voilà, je pense. Ah, ça me paraît très logique, sinon je vois pas.
C'est évident.
Oui, bon, bah,
ça tombe sur un circuit qu'il a pas, il aura pas
le circuit.
Il regardera.
C'est le circuit le truc problématique parce que j'ai pas trop d'expérience des DLC donc je sais pas trop comment ça marche pour les autres jeux les Call of Duty et compagnie. Mais
bah, tu penses que tu les as pas, c'est tout.
Bah oui, mais du coup ça pose dans le sens où du coup si tu veux jouer toi qui as acheté le DLC sur un des nouveaux circuits, bah tu risques de galérer à trouver des gens si tu peux jouer que avec ceux qui ont aussi acheté.
Si ça se trouve tu vas avoir deux championnats parallèles, c'est-à-dire que les gens qui ont acheté le DLC vont être en priorité mis avec des gens qui ont acheté le DLC, et puis les autres. Donc tu vas avoir les riches d'un côté, puis les clodos de l'autre. Quoi.
Ouais, en même temps, vu le tarif, tu vois, c'est pas encore. Ça va, quoi.
Ouais. Alors justement, parlons-en du tarif.
Parlons-en, bordel de merde. pour préciser pour Oscar, que ce soit dans les. Généralement, comme tu dis, c'est le circuit ou la map qui pose problème. Ou même dans les MMO, si t'as pas l'extension, bah t'as pas accès aux zones, au contenu spécifique à l'extension, mais tu peux voir par exemple quelqu'un d'autre avec son équipement de l'extension, tu vois.
Oui, mais ça c'est pas le problème.
Tout le monde sera patché en version, ce sera peut-être la version 3.0 pour le premier DLC de Mario Kart, et tout le monde aura dans la mémoire de sa Wii U tous les personnages et tous les véhicules, mais par contre pour les circuits, bah, faudra passer à la caisse. Ne fût-ce que pour les voir, quoi. C'est-à-dire pour rouler dessus. Donc ça, il n'y a pas
de. Oui, j'ai bien compris. Mais justement, c'est le souci. Toi, du coup, le mec qui achète les DLC est pénalisé parce qu'il peut pas jouer avec qui il veut.
Sauf sur les anciens circuits, quoi. Tu vois, à mon avis,
si tu joues avec les circuits, du coup, tu auras les circuits qui seront
sur les circuits qu'il a payés.
Il peut jouer avec qui aura payé, quoi. Tu vois.
Ouais, voilà, mais du coup, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir les circuits grisés si par hasard. Enfin, je sais pas, imaginons que t'es dans une partie, il y a 12 mecs, il y en a un qui a pas acheté le DLC, donc tout le monde a ces 4 circuits-là grisés.
Ah oui,
tu vois, c'est un peu.
Ouais, mais soit la sélection se fera uniquement sur les circuits tout le monde a, ou bien ce sera, comme tu dis, ce mortal, ce sera segmenté entre le monde des pauvres et le monde des pauvres plus 12 euros.
Est-ce que quelqu'un sait comment ça se passe pour les jeux comme Call of Duty?
Alors, pas du tout.
T'as dit jeu et Call of Duty, je comprends pas.
Oui, voilà, mais on peut pas. Voilà, faut être un peu sérieux.
Comment ça se passe au stade de football qu'on n'a pas l'abonnement, hein? Pour Call of Duty, c'est comme pour Battlefield, grosso modo. Si t'as le DLC, t'as accès aux maps. Si t'as pas le DLC, t'as pas accès aux maps et tu joues sur les maps de base et les modes de jeu de base. C'est-à-dire, voilà, dans les DLC, t'as juste pas accès.
Oui, t'as juste pas accès.
Tu peux pas rejoindre deux parties qui font tourner.
Mais du coup, c'est bien ça. Donc, ça va bien segmenter en deux parties. Il va y avoir les riches d'un côté, enfin les pauvres et les pauvres plus 12 euros.
Ouais. Je vois pas comment il pourrait en être autrement, mais après.
Voilà, sur ces autres.
C'est quand même bientôt, puisque le premier DLC, c'est pour novembre, donc ça arrive assez tôt. Et le suivant, c'est pour le mois de mai 2015, par contre.
Sur ces entrefaits techniques, parce que ça reste quand même un truc, même si effectivement ça a créé une espèce de championnat de vitesse, très probablement qui est un petit peu gênant.
De toute façon, on parle d'un truc qu'on ne sait pas trop.
En plus, on n'est même pas sûr, parce que on verra bien si ça se trouve, ils ont quand même une astuce pour que. Enfin, je sais pas, on pourra peut-être rejoindre, ou il y aura peut-être une option supplémentaire dans le menu pour dire je veux jouer qu'avec des gens qui ont le DLC XY.
Ouais, ou bien j'autorise les pauvres à venir jouer avec moi.
J'autorise les pauvres à jouer avec moi.
Je joue pas sur.
Toi, et du coup tu auras un nouveau dialogue dans la liste de dialogues. Il y aura cassez-vous les pauvres.
Cassez-vous les pauvres. Au revoir, c'est vachement fort. Course suivante, cassez-vous les pauvres. Non, mais du coup, moi je paye mon DLC 12 euros, je veux plus jouer à l'ancien contenu. Moi, je joue pas avec les pauvres.
Oui, voilà. Attends, les mecs ont acheté juste le 10, c'est loser.
Ouais, quand même.
Alors, moi j'ai une autre question quand même qui est beaucoup plus importante que celle-là. Est-ce que vous allez craquer? Vous, personnellement?
Ben moi, j'ai déjà craqué, hein, 4-5 fois, 4-5 soirs de suite, hein, j'ai rien qu'à y penser.
Et là, il a pensé à dépenser le pognon. Non, mais Syrah, vas-y, est-ce que tu vas craquer? Parce que là, c'est vrai qu'en termes de contenu, ils se foutent pas trop de la gueule du monde, faut quand même reconnaître. Et en termes de timing, c'est pas non plus, enfin, c'est pas le DLC qui est dispo le jour de la sortie avec le Season Pass pour les... Enfin, c'est pas Call of Duty, c'est pas des trucs. Je trouve que c'est pas.
C'est pas Fantasy Life.
C'est pas le DLC le plus malhonnête que j'ai vu, on va dire. Ça reste un DLC, donc ça reste du contenu additionnel, mais c'est pour un jeu que tu sais que tu vas garder. Enfin, t'as quand même de bonnes chances de garder. Et
il y a
quand même pas mal de contenu.
Il serait sorti le jour de la sortie du jeu. Il aurait été mis avec. Moi, j'aurais pas trouvé ça non plus complètement abusé, parce que un Mario Kart, ça a toujours été. Toujours 4 championnats de 4 circuits, et ensuite ils ont ajouté des rétros. On a toujours été habitué à ça pour le prix d'un jeu, et s'ils rajoutent des circuits, ça ne me paraît pas déconnant de payer plus.
Ouais. On n'a pas été amputé à la sortie du jeu, quoi.
Oui, ils auraient mis que 2 championnats et il fallait remettre la main à la poche pour avoir le nombre habituel. Ouais, ça aurait été abusé. Mais globalement, moi, je trouve que. Alors, déjà, je trouve que c'est une initiative qui est bien, parce qu'on a de nouveaux circuits pour pas très cher, parce que sinon, il faut que tu rachètes le jeu à la génération d'après, donc ça coûte cher.
Puis, surtout que tu attends de la génération d'après.
Oui, certes. Et d'autre part, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que dans des Smash Bros où tout l'univers Nintendo est mêlé, sur Mario Kart, c'est que l'univers de Mario normalement. Et là, on a l'air de vraiment en sortir, donc que ce soit en personnage ou en circuit
ou en Mercedes.
Et aussi en véhicule. voilà. Mais ça, on s'en tape. Mais les circuits et les personnages, c'est vraiment complètement en dehors de l'univers de Mario. Et on pourrait peut-être imaginer que sur la prochaine édition du jeu, on ait vraiment un univers très élargi.
Le fameux fantasme d'Antix de voir une espèce de Super Smash Bros. Carte 3DS. Enfin, carte. Voilà. Que la formule Smash Bros. Soit reprise du kart.
Ouais, c'est bien ça. Je pense que ça changerait la licence, et ça lui donnerait un coup de jeune.
tout dépend comment ça tourne autour de nouveautés de gameplay, genre de trucs là, quoi. Moi, ce que je trouve, enfin, ce que je trouve qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils ont absolument rien annoncé pour le mode battle, qui est juste à chier dans ce Mario Kart. S'il y a un seul truc à chier, c'est le mode battle. Je trouve que c'est un peu dommage qu'ils aient pas fait une arène ou deux à l'ancienne.
Est-ce que tu crois que ça... Parce que après tout, il y a eu des... Enfin, Nintendo nous a testé un petit peu, puisque je vous rappelle que New Super Luigi U était sorti en disque et en dématérialisé sous forme de DLC de New Super Mario Bros. Est-ce que vous croyez que...
En disque, c'est un stand-alone.
C'était un stand-alone, tout à fait. Je précise, c'est effectivement, ouais. Il n'y a pas besoin de... Tu fais bien de préciser. Que vous pensez qu'il y a moyen que la pratique du DLC se généralise, parce que de toute façon tout le monde y est.
Elle l'est déjà, je pense.
Je pense qu'elle l'est déjà, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que vous croyez que ils vont se mettre à justement amputer les jeux, c'est-à-dire, enfin, je sais pas, la première fois que vous avez joué au mode battle dans, vous êtes forcément dit bon ben le mode battle ce sera pour un DLC. Je suis pas le seul à y avoir pensé.
Ouais, je me suis pas dit que ce serait forcément le cas. Parce que le mode battle, il est un peu minoritaire par rapport au cours. Enfin, s'il est minoritaire, c'est avant tout parce qu'il a chié, soyons clairs. Mais je me suis dit que ça pouvait être une possibilité, ouais.
Mais il faudrait qu'ils fassent des circuits rétro battle.
Maintenant, heureusement qu'ils font...
Oui, c'était l'idée d'origine de Sierra, le circuit battle.
Donc ça, c'est top. Tu mets de la Super Nintendo, de la Nintendo 64.
Zaren battle.
Et boum.
Maintenant, comme disait Sierra Oscar, on a un Mario Kart par génération, donc le fait qu'ils soient entretenus, qu'il y ait de mise à jour et tout ça, bah, c'est super, parce que sur la console précédente, la Wii, on n'avait déjà pas de mise à jour. À part quand il y avait un gros bug, genre la sauvegarde de Skyward Sword, je crois. Donc là, c'est quand même super qu'on puisse avoir un suivi du contenu supplémentaire. Avant, il n'y avait pas droit. Par contre, il faudrait pas non plus que ça devienne excessif, parce que pour le moment, il y a des exemples, sur Wii ou non, trouve les prix tout à fait raisonnables par rapport à ce qui est proposé, mais sur 3DS, on a des exemples où c'est excessif. Et les deux gros exemples, Fire Emblem et New Super Mario Bros. 2, ou Fire Emblem, t'en as pour presque 50€ de DLC, et New Super Mario,
Mario
Bros.
Golf
2,
aussi.
Ça va encore, parce que Mario Golf, à la base, t'as 126 trous, et pour 15€, tu peux avoir 108 trous en plus, et 3 personnages. En termes d'ajout, ça va, quoi. Je trouve que c'est encore raisonnable par rapport au contenu de départ.
Après, Fire Emblem, je me rends pas bien compte.
Ont eu toujours le même nombre de trous.
Fire Emblem, c'est pas compliqué. Si tu veux tous les DLC, tu dépenses plus que le prix du jeu.
Ouais.
Bah, c'est ce que disait Medus, tu dépenses quasiment 50€ alors que le jeu, il est affiché en magasin à 40.
Ouais, sur l'eShop à 45. Donc voilà, on est déjà sur... Je veux dire, c'est les deux premiers jeux Nintendo qui ont eu des DLC, si je dis pas de bêtises. C'était directement tarification maximale. Par contre, tous ceux qui ont suivi après, que ce soit pour le Mario Golf, sur Wii U pour Pikmin 3 et New Super Mario Bros. U, c'était des tarifs beaucoup plus raisonnables. Et là, ça fait quand même plaisir de voir que Nintendo suit ses jeux, sort les DLC pas le jour de la sortie du jeu, ou te vend pas, fait pas comme Ubisoft qui vient de montrer hier ou aujourd'hui le trailer du Season Pass du Assassin's Creed qui va sortir à la fin de l'année, tu vois ce que je veux dire.
Mais en exclusivité temporaire,
mais justement, enfin, moi je pense que le plus important finalement, c'est qu'il y a des jeux qui se prêtent au DLC. Et typiquement, je trouve que New Super Mario Bros et Mario Kart et Smash Bros aussi s'y prêtent bien, parce que c'est des jeux qui, enfin, comme on disait, il y en a qu'un par génération. Non, t'as d'autres jeux comme Pokémon, comme Animal Crossing qui ne s'y prêtent pas du tout, et pour l'instant il n'y en a pas, ce qui est une bonne chose, ce qui est plutôt encourageant, et j'espère que ça va continuer, et j'espère surtout qu'un autre jeu qui pour moi ne s'y prête pas du tout, c'est Zelda, et j'espère qu'on n'aura jamais de DLC sur Zelda, alors qu'à côté, je suis plutôt content d'avoir du DLC pour Mario Kart, et j'espère qu'on en aura pour Smash Bros. Quoi.
Je pense que de toute façon, vu que Zelda c'est quand même un jeu à histoire, à univers et tout ça, je pense que pouvoir coller un DLC dessus, ça risque d'être compliqué, et en termes d'image pour la saga, ça peut être un désastre. Et pour Pokémon, ils sont entièrement contre pour Pokémon.
Oui, alors Pokémon, c'est carrément la Pokémon Company contre, et c'est eux qui décident. Mais typiquement, enfin, Animal Crossing, Nintendo a clairement dit qu'il ferait pas de DLC. Faut quand même se rendre compte qu'Animal Crossing et Pokémon, c'est quand même les deux plus gros succès de Nintendo en ce moment. Et ils refusent malgré tout de faire du DLC, ce qui est encourageant.
Ouais. Alors, même,
ce qui est encourageant
mieux,
pour Zelda.
En fait, En fait, tu dis qu'ils refusent de faire du DLC, c'est-à-dire qu'ils font du DLC, mais du DLC gratos via le Spot Pass. Ils offrent du contenu régulièrement via Spot Pass.
Oui, voilà.
C'est,
mais
c'est quand même, je veux dire, ils suivent le jeu, mais en même temps, ça reste gratos. C'est
mais oui, mais parce que tu peux pas le rendre payant. Tu peux le rendre payant, mais si tu le rends payant, ça devient une arnaque, quoi.
Du
contenu
ça
de ce type-là
Sims,
payant, c'est voilà, exactement.
Et c'est vrai que je rejoins tout
ça,
à fait.
C'est-à-dire que les autres le font, quoi.
Je rejoins tout à fait Oscar là-dessus. C'est vrai que finalement, là où il y a du DLC, c'est pour des jeux qui s'y prêtent. Et c'est vrai qu'un Mario Kart s'y prête drôlement parce que des circuits supplémentaires, je pense à des circuits supplémentaires, c'est vrai que les personnages supplémentaires, j'ai pas pour vous, mais voilà, c'est surtout les circuits
parce que
effectivement les personnages il y en a plein et puis au final tu joues avec un ou deux persos, mais tu vas pas forcément varier beaucoup. Je crois que à peu près tous les Mario Kart que j'ai joué dans ma vie, j'ai joué en gros, je n'ai jamais réfléchi à essayer de jouer à quelqu'un d'autre. Hein. J'ai peut-être dû jouer Bowser 2-3 fois pour rigoler, mais c'est à peu près tout.
Oui, tu varies assez peu, quoi.
Voilà, enfin, je sais pas. Une fois que t'es fixé sur un personnage, que tu le connais bien, c'est vrai que tu sais bien le piloter, connais les véhicules, les machins. Enfin, voilà. Et c'est vrai que ça s'y prête pas. Enfin, Mario Kart s'y prête bien, Smash Bros s'y prête bien. Et effectivement, Pokémon, ça pourrait s'y prêter, hein, parce que ce serait
tellement. Ah, je trouve pas. Non.
Ah bah 2€ le Pokémon, tac.
Bah oui, mais justement, ça ruine le concept du jeu, quoi.
Voilà, ça ruinerait complètement.
Si tu fais un DLC pour allonger l'aventure, ou bien pour vendre des Pokémon aux gens, quoi. Tu vois, ça dépend si tu t'appelles Nintendo ou Activision.
Non, mais même dans tous les cas, du DLC Pokémon, ça ruinerait le jeu, quoi. Après, voilà, il y a plein de jeux où le DLC ne s'y prête pas, il y en a quand même, quoi.
Ouais, il y a eu des Pokémon spéciaux qui pouvaient être récupérables uniquement sur des événements. Donc on pourrait tout à fait imaginer des Pokémon payants. Mais bon, ça n'a un intérêt limité, mais...
C'est-à-dire que ça n'a un intérêt que pour Nintendo, quoi, de faire ça. Parce que autrement, le principe d'avoir des Pokémon par des événements spéciaux, enfin, de toute façon, la base du concept de Pokémon, c'est quand même de dire, voilà, t'as la cartouche, le but du jeu, c'est de tous les attraper. Si pour tous les attraper, il faut payer en plus, ça devient une arnaque, quoi.
Ouais, ça c'est vrai.
Faut mais payer du coup, un minimum de jeu.
Du coup, Médus, tu nous as pas dit, est-ce que toi tu vas l'acheter? Est-ce que tu l'as déjà acheté? Est-ce que tu l'achèteras les deux séparément pour bien le sentir passer?
Non, je vais acheter les deux ensemble. Par contre, j'espère que la possibilité d'acheter les deux ensemble à 12€ sera maintenue dans le temps. Ils ont pas annoncé de limite de temps. Enfin, du moins, par ma connaissance. Mais ouais, complètement. J'aime bien, je me fais régulièrement mon petit Mario Kart 8. Allez, au moins une fois par semaine, je fais une petite session d'une heure. Donc, moi, je kiffe Mario Kart depuis le premier. Donc, je serai à bloc dessus.
Alors, Oscar, puisque tu trouves que ça s'y prête bien, est-ce que toi tu vas l'acheter l'un ou l'autre des DLC ou les deux? Oscar ne répond plus.
Ah, moi, pardon, j'avais pas compris que c'était à moi que tu parlais. Oui, moi je les ai déjà achetés.
Oh, le pigeon!
Je me suis fait voir complètement.
Ouais, parce que tu le sais pas, mais demain ils vont annoncer un pack de 3 DLC pour 13€.
Et voilà.
Ça serait capable.
Moi j'ai fait la connerie une fois. Hein. Maintenant on n'y prend plus. Hein. J'achète plus rien tant que le truc il est pas sorti, quoi.
Non, puis il faut dire que Nintendo soigne ses DLC quand même. Enfin, jusqu'ici j'ai encore pris que celui de New Super Mario Bros. U, donc Super Luigi U. Et même si c'était 20 boules, on en a pour son argent à fond, je trouve. C'est pas un contenu fait à la va-vite ou bâclé, donc je pense pas que les circuits vont être faits à la va-vite ou bâclé, ça ruinerait le jeu en ligne de toute façon, donc à ce tarif-là, faut foncer, quoi. Plus 50% de circuits pour 12€, déjà qu'avec le jeu à la sortie, avec Mario Kart 8, ils ont offert un second jeu déjà, tu vois, donc c'est déjà quand même pas mal. Le DLC qui a tarif bas, je pense qu'il faut pas hésiter, quoi.
Oui, il faut pas hésiter, mais faites quand même pas la même connerie que moi, parce que sur le principe, c'est quand même con ce que j'ai fait.
C'est quoi, juste?
Mais tout payé d'un coup.
D'acheter un contenu dont on ne connaît pas encore la contenance, quoi. On sait jamais, hein. C'est possible soit naze au final.
Puis le principe de la réservation du DLC, c'est quand même assez étonnant.
C'est con, mais je me suis fait avoir par la possibilité de pouvoir jouer Yoshi en noir, quoi.
Oh.
Non mais
Yoshi Kimo, en fait, il voulait jouer.
Oui, parce que voilà, quand tu prends le pack de 12€, maintenant tu as directement 8 couleurs de Yoshi, 8 couleurs de Maskaz, je crois, c'est ça?
Ouais, c'est ça.
Ouais, d'accord.
Ah oui, tout de suite.
C'est cool, les couleurs, tu les choisis comment?
Bah, quand tu choisis ton perso, après tu choisis la couleur, quoi.
Ouais. Non, en même temps, imagine que les circuits soient à chier, bah, tu te laisseras pas avoir la prochaine fois par Nintendo. Dire, moi qui suis aussi joueur sur PC, bah, je me fais plus avoir du tout, quoi. Quand c'est un jeu d'Ubisoft ou de. Non, pas IE, je joue pas.
À le code.
Et Vision, je
joue. À le code. Non, mais, ça y est, il va cafeter. Il va cafeter.
Non, mais quand
il va cracher dans la soupe.
Quand il y a un jeu d'Ubi qui sort, bah, j'attends juste que. Tous les DLC soient sortis derrière, ou même un gros titre, par exemple Borderlands 2, j'ai attendu que tous les DLC soient sortis derrière, parce que j'ai pas envie de payer mon jeu à 50€.
Après, t'as le pack Ultimate.
DLC, quoi. Donc je prends le pack Ultimate, j'attends qu'il soit en solde à 15€, puis c'est réglé.
D'ailleurs, est-ce que vous
Nintendo
pensez que ça va
en arriver là?
Alors, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand ils achètent les packs Wii U Super Mario Bros, il y en a, et ils contiennent New Super Luigi U téléchargeable. C'est-à-dire que t'as la galette de New Super Mario Bros. Et tu peux télécharger gratuitement New Super Luigi U. T'as un code de téléchargement. Est-ce que vous pensez que les packs Mario Kart, alors peut-être pas ceux de ce Noël-là, mais par exemple les packs Mario Kart à partir de l'année prochaine, moi il me semblait que c'était le truc téléchargeable. Après, je peux me gourer. Hein.
J'en ai aucune idée.
Ouais, je suis pas sûr, mais moi il me semblait que c'était les deux jeux physiques, quoi.
Ah, je ne me semblais pas, mais on vérifiera. Je ne suis pas très très important. Néanmoins, ouais. Est-ce que vous pensez qu'à partir de, je sais pas, par exemple Noël 2015, ben vous aurez des packs Mario Kart U avec ou des packs Mario Kart 8 avec la Wii U, et puis vous aurez les deux DLC, peut-être éventuellement un troisième. Tout sera inclus, c'est-à-dire vous aurez les codes de téléchargement. Finalement, vous aurez une espèce de pack Ultimate qui sera peut-être vendu, ou alors il y aura peut-être une réédition de Mario Kart 8 Ultimate qui coûtera X€ et dans lequel vous aurez soit les DLC directement inclus sur la galette, soit les codes de téléchargement. Est-ce que vous pensez que ça c'est quelque chose de possible ou pas?
Moi je pense pas.
Je pense pas. Je pense que s'ils font des packs, ce sera plutôt pour promouvoir de nouveaux jeux, genre Zelda ou un hypothétique Metroid, ou bien autre chose. Et d'ailleurs, jusqu'ici Nintendo, je crois, n'a jamais fait de solde sur ses DLC. Je sais pas, c'est un Scar peut-être que t'as.
Je ne sais pas.
Quelle déception.
Je pense qu'ils vont sortir un pack Wii U avec Mario Kart cette année, à mon avis, mais qu'il n'y aura pas le DLC inclus. De toute façon,
il y a déjà un pack Wii U et Mario Kart 8.
Oui, effectivement. Non, je pensais au Japon, en fait.
Ah, d'accord.
Ouais, non. Parce qu'il faut savoir qu'on se pense japonais systématiquement.
Si.
C'est que la New 3DS, lui, c'est bon, il l'a commandé la vraie, il a pas pris de 3DS XL. Voilà.
Ouais. Non, mais s'ils font un nouveau pack cette année, je pense que ce sera un pack Smash Bros. Wii U. S'il sort.
Oui, non, du voilà. Coup, chez nous, oui. Non, c'est vrai, non, mais c'est-à-dire qu'ils font différemment pour le Japon et. Non, le Japon, non, je pense pas.
Pourquoi ?
Le Japon, à mon avis, bah parce qu'au Japon, il n'y a pas la mentalité en général des packs avec consoles et jeux n'est pas la même qu'ici, c'est-à-dire qu'ils font pas de packs avec les jeux tout récents. Ils font des packs avec les vieux jeux. Je pense qu'ils vont faire un pack avec Mario Kart 8 pour Noël, et en espérant que les gens achètent donc le pack avec Mario Kart 8 et qu'ils achètent Smash Bros. Séparément.
Ouais. Ça, ce qui peut se tenir.
Bon, messieurs, si vous avez une dernière chose à dire, c'est le moment. Parce
je voulais
que
juste parler de Fantasy Life, le RPG jouable en ligne qui va sortir sur 3DS.
Et qui a des DLC.
Et qui a un DLC à la sortie, qui coûte 8€, et pour lequel je trouve que c'est une encule. Je vais expliquer pourquoi.
J'aimerais quand même préciser là-dessus, parce que je trouve aussi que c'est une arnaque. Maintenant, il faut comprendre que ça explique plus ou moins. Parce que ça s'explique par le fait qu'ils ont voulu reproduire le même schéma qu'au Japon, mais à la base le jeu est sorti au Japon tel qu'il sort en France chez nous, donc le jeu comme ça. Et en fait, plusieurs mois après, étant donné que le jeu a très bien marché, ils ont décidé de faire une version améliorée et de proposer le contenu de cette version améliorée en DLC. Et ce qui est en fait la connerie dans l'histoire, c'est qu'au final, maintenant, au lieu de sortir la version améliorée directement en France, ils sortent la version originale avec le contenu de la version améliorée en DLC, mais dès la sortie.
Un détail près qui est important, c'est qu'au Japon, le jeu n'est pas jouable en ligne de base, alors qu'ici, il le sera. Mais par contre, quand tu achèteras le DLC à 8€, tu pourras plus jouer en ligne avec les gens qui n'ont pas acheté le DLC. Tu vois. Alors, avant, au Japon, tu ne pouvais pas jouer en ligne de toute façon si tu n'avais pas le DLC. Alors qu'ici, tu pourras jouer en ligne, mais si tu achètes le DLC, tu ne peux pas jouer en ligne avec quelqu'un qui n'a pas acheté le DLC, je trouve ça un peu crapuleux, surtout dans la mesure où le DLC ajoute du contenu de fin de jeu. Quoi. C'est pas
mais contenu, en fait, ce que je voulais dire, c'est que l'existence de ce DLC à la base est légitime par rapport au Japon. Voilà, c'est l'origine du DLC est légitime. C'est juste effectivement la façon dont il a été localisé qui a été dégueulasse, où ils ont voulu. Ils ont voulu avoir le beurre et l'argent du beurre, quoi.
Ouais, voilà. Mais du coup, c'est Nintendo qui est éditeur de Fantasy Life en Europe. Du coup, ce genre de décision, c'est plutôt level 5 ou bien Nintendo qui la prend.
Ça me paraît impossible à dire, ça.
Parce que.
Ça me paraît possible, mais en tout cas.
Le fait qu'ils veuillent le pognon, ce qui est déjà une encule, vu que le jeu est sorti il y a quand même perpète et qu'il a déjà bien été rentabilisé, on se doute que ça va marcher par ici. Il y a de fortes chances. Bon, voilà, c'est d'abord, ça c'est une question de pognon, ok, mais là c'est carrément qu'ils vont, par la façon dont ils procèdent, ils vont bloquer le jeu en ligne entre des gens qui n'ont, et qui n'ont pas le DLC.
Moi ça m'étonnerait pas que la décision vienne de Nintendo, mais de Nintendo Europe, quoi. Et que Nintendo Japon n'a pas du tout suivi l'histoire.
Ouais, ça me paraît peut-être. Je pense pas qu'il y ait si peu de coordination, qu'il peut y avoir des lacunes de coordination entre les trucs.
Pour travailler dans une grande entreprise, tout ça, la coordination, mon cul, hein.
Oui, non, mais là, déconner. Même dans les petites entreprises, la coordination, mon cul, mais on parle de Nintendo, on parle pas de...
Ouais, mais c'est pareil, Nintendo of Europe, c'est vraiment
un canard bateau dont tout le monde se fout, hein. C'est quand même un jeu qui, à mon avis, Nintendo Japon s'en branle totalement dans le sens où le jeu est déjà sorti au Japon. Enfin, tu vois, c'est pas comme si il fallait coordonner la sortie d'un Smash Bros ou d'un Pokémon, quoi.
Potentiellement une nouvelle licence forte et tout ça pour lequel ça peut être tu vois important d'avoir un petit peu de.
Oui. C'est pas un gros potentiel pas. Non plus. C'est ça pas.
Ouais, enfin, je trouve ça un peu con comme.
Je trouve ça con. Hein. On est tous d'accord sur le fait que c'est con. C'est con et c'est une enculade.
C'est dommage effectivement de pas avoir sorti la version directement, la version plus améliorée en boîte avec tout ce qu'il faut dedans, quitte à mettre un poil plus cher. Enfin, je sais pas, mais c'est vraiment crétin. Donc effectivement, l'origine du DLC se justifie parfaitement, mais pas avec le timing qu'il y a là. Ça aurait été une sortie mondiale avec le DLC quelques mois plus tard, mondiale aussi. Je pense que personne n'aurait rien dit.
Mais c'est-à-dire, en fait, cette histoire est intéressante parce que le DLC a cet avantage que avant, quand les mecs sortaient un jeu et qu'ils disaient tiens, on aurait pu rajouter ça et qu'ils le rajoutent après, bah du coup ils ressortent un jeu, une version améliorée. T'es obligé de te payer la version améliorée. Là, ils ont offert cette possibilité d'avoir le DLC, donc ceux qui avaient acheté le jeu de base n'étaient pas baisés, mais au moins, à l'époque, quand il y avait une version améliorée qui sortait au Japon, et qu'en France, il fallait sortir le jeu, bah, il sortait directement la version améliorée, quoi. C'est intéressant parce que t'as l'avantage du DLC pour le Japon, et t'as le défaut du DLC pour l'Europe, quoi, au final.
Oui.
Effectivement, c'est... Alors là,
c'est exactement
on aurait pas mieux dit, hein.
Oui, c'est super bien formulé.
Effectivement, c'est une belle démonstration de ce que ça peut apporter de bien et ce que ça peut être un petit peu problématique dans certains cas. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup la formulation. Je pense qu'on va la reprendre 2-3 fois celle-là parce qu'effectivement, elle est très très bien.
J'espère qu'il y aura des DLC pour Splatoon.
Je sais pas ce qu'il y aura pour Splatoon, mais j'espère qu'il va sortir surtout parce que ça devient un petit peu stressant. Plus, hein. Moi, tous les soirs, j'en peux plus.
C'est bien.
On peut plus. Voilà, donc on va se quitter sur ces fortes paroles et on va se retrouver dans 2 semaines. Hein, on reprend le rythme habituel. Dans 2 semaines, je sais pas de quoi on parlera. Moi, je vous propose éventuellement de parler des guerriers d'Hyrule.
Voilà. Par exemple.
Puisque voilà. On ne dit pas Hyrule Warriors. Si vous dites Hyrule Warriors, je vous oblige à le dire à l'anglais, c'est-à-dire Hyrule Warriors, ce qui est imprononçable.
Avec une patate dans la bouche.
Faut être honnête, c'est imprononçable.
Donc ce sera le 7 guerriers d'Hyrule. Mais c'est
super long. Mortal. J'ai une super idée.
T'as eu la blague?
Non. Je regardais là pendant la pause. Je regardais ma liste d'amis Wii U. Sur une dizaine de gens connectés, il y en a 2 qui jouent à Mario Kart 8 et les 8 autres qui jouaient à Hyrule Warriors. C'est forcément des gros fans, quoi, mais qui a acheté Hyrule Warriors ici?
Moi, je l'ai acheté à Hyrule Warriors.
Pas moi, je suis pas un pigeon.
Moi, la même
on en parlera quand même dans 2 semaines, ça n'empêche pas.
Ouais, très bien.
Bon, est-ce que tu as une blablague, Sirar, pour conclure cette émission, ou est-ce que tu souhaites tenter une blablague en direct, improviser une blablague?
Moi, j'ai pas de blablague. Par contre, j'ai une idée de nouveauté pour cette saison 4.
C'est interdit.
Non, avant que tu dises, tu sais que quand t'as dit que tu participes à l'émission de ce soir, moi, le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est « Il va avoir une blablague !»
Mais
là, tu...
Mais
là, la déception de tous les gens qui nous...
Tu sais pourquoi ? S'il n'y a pas de blablague.
C'est parce que Kaliken, je trouve que ses blagues, elles sont super bien. Et
tu vois, voilà, on va le...
Et ça m'a vexé qu'il sorte des meilleures blagues que moi. Donc du coup,
Non, on va devoir compter ça.
Voilà, je pensais qu'il serait là, tu vois.
Du coup, c'est quoi l'innovation que tu souhaites nous faire?
Eh ben, on...
On prévoit la blague dès le départ.
Non, interdiction de dire des noms de jeux en anglais, sinon on boit un coup. À chaque fois qu'on dit... Donc maintenant,
ça va devenir rapidement ingérable. Hein.
Est-ce que ça peut traverser l'esprit le fait que les auditeurs ils pourraient juste rien comprendre?
C'est pas grave, on s'en tape. De toute façon, on n'en a pas.
ou alors on met quelqu'un pour la traduction. Ça, chaque fois que quelqu'un dit les guerriers d'Hyrule, derrière il y a un type qui fait Hyrule Warriors.
Oui, voilà, en fait, il faudra un traducteur automatique qui est exclu du jeu, du coup.
Mais non, mais les auditeurs du Dojo Bar sont extrêmement intelligents.
Oui, non, ça c'est vrai.
Très traductotronés.
Ils sont très beaux, ils ont de grands pénis.
Ce sont les plus beaux. Sauf Dong Kusei, qui a raté donc l'émission d'aujourd'hui.
Et voilà, bah ouais, ça c'est bien fait pour ton cul. Hein. Bref.
Dong Kusei.
Bon, et au revoir tout le monde, à dans 2 semaines.
Bonne nuit les petits.
Salut.